Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti.
Vous avez connu une dépression postpartum ? Vous avez été anorexique, vous supportez toute la charge mentale et émotionnelle de votre couple ou de votre famille. Ne quittez pas, vous êtes une femme. Cette semaine, dans l'émission, on va parler de santé mentale au féminin.
Ouais. Et oui, car les femmes sont folles, c'est bien connu. Elles sont dirigées par leurs hormones et elles pleurent pour un rien. Et en plus, elles conduisent mal. Non, c'est pas vrai. Bon, en fait, voilà, au lieu d'essentialiser les pathologies et le cerveau humain, on va essayer de déconstruire ensemble ce qui pèse sur la psyché des personnes dominées. C'est-à-dire que c'est structurel et systémique, pas naturel. Et on va voir qu'en plus, on cumule et que voilà, être une femme n'aide pas à être écoutée ou à être prise au sérieux dans un cadre médical. Donc C'est super. Avant ça, comment ça va bien, le moral ?
Bah écoute, en parlant de maladie, moi j'ai été malade en fait après mon voyage pendant les fêtes de fin d'année en Afrique. Je suis revenue en fait, j'ai souffert d'une anémie sévère qui m'a envoyée à l'hôpital, donc j'ai été hospitalisée pendant 3 jours. 3 jours durant lesquels je me suis nourrie exclusivement de séries télé, de livres et de légumes.
Bon pour la maladie mentale et physique.
Donc en fait, l'anémie, c'est une carence en fer. Donc c'est quand tu n'as pas assez de fer dans ton régime alimentaire. Et moi, comme j'ai attrapé en plus le palu qui vide toutes tes réserves de fer, et ben en gros, j'étais à un niveau tellement bas qu'on a dû me faire une transfusion de poche de fer.
Cure de spiruline.
Voilà. Et du coup, je pouvais plus vraiment bien respirer. Enfin, c'était un peu la merde, quoi. Donc, mon conseil, c'est manger des légumes et prenez des vitamines si vous êtes végétarien. Parce que c'est mon cas. Je suis végétarienne depuis 6 ans. Et j'avoue que pendant plusieurs années, je m'en foutais un peu quoi, des compléments, je me disais ouais bon, et en fait l'anémie ça s'installe très lentement, mais en fait au bout du
moment c'est assez fréquent,
voilà, c'est ça, et quand tu l'as vraiment et quand elle est sévère, et ben après tu mets des mois à t'en remettre quoi. Donc si tu peux vraiment, si vous pouvez, faites attention.
Sinon c'est la cure thermale pour tous.
Voilà, non mais c'est pas ouf quoi. Mais bon, et toi?
Et ben moi ça va, je ne suis toujours pas végétarienne, mais pas forcément en meilleure santé. Et moi je me suis fait récemment, pour la première fois de ma vie en fait, troller par des trolls sexistes sur Twitter.
Elle est déno.
C'est ça. Et donc voilà, j'ai reçu de nombreux appels à la haine que j'ai cessé de lire au bout d'un moment.
Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait un article sur les poches de jeans ?
Non, même pas. J'ai juste relayé un appel de Rue 89 qui cherchait des témoignages pour un article et ça a suffi à susciter la colère de nombreux internautes. Et donc j'ai notamment reçu ce message : heureusement, grâce à la biologie, vous ne vous reproduirez pas. Donc what the fuck, je me suis demandé si cette personne allait venir me couper les ovaires à la main. Donc
super.
Voilà.
Merci Internet, encore une fois.
Voilà, donc des nombreuses personnes qui nuisent à notre bien-être psychique.
Ouais.
Voilà, on les ignore.
Donc la santé mentale pour les femmes.
Il y a tant à dire.
C'est un sujet vaste.
Oui.
On peut déjà commencer par un petit point historique autour de la médecine et de la santé au féminin, parce que c'est quand même assez controversé à travers l'histoire. Déjà, en Occident, la médecine et le traitement de la santé mentale des femmes, ça a toujours été exercé par les hommes. Donc en fait, Hippocrate, notre cher ami Hippocrate, a donné naissance au concept d'hystérie, qui en fait recouvre la fatigue, les angoisses, l'irritabilité, le syndrome prémenstruel.
Tout est la faute de l'utérus.
Voilà, tout ce qui concerne les femmes, en fait, c'est que leur utérus, il n'est pas bien. En gros, pour lui, c'était une maladie due à l'utérus, et parce que l'utérus se déplaçait dans le corps selon certains cycles.
Mais bien sûr.
Et bien sûr, pour l'hystérie, il y a deux remèdes, les rapports sexuels et la maternité.
Tout à fait.
Voilà, donc dans les deux cas, ça arrange bien les mecs.
Et ça rend très heureux.
Voilà, c'est ça. Et donc, on n'ose pas imaginer ce que ça a pu donner sur des femmes qui étaient en dépression à l'époque. Et il y a aussi eu les internements forcés. et les traitements de choc à l'électricité, à l'eau. Et bien sûr, la psychanalyse à la Freud pour expliquer les troubles sexuels par les désirs refoulés des femmes qui en fait, veulent être des hommes. Mmh. Et donc avoir une bite.
C'est encore très pratiqué, hein, ça a encore cours, cette
interprétation. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai découvert Madeleine Pelletier, qui est la première femme médecin diplômée en psychiatrie en France, en 1906. Donc, elle était assez badass quand même. Elle n'était pas seulement psychiatre, elle était aussi féministe, franc-maçonne, socialiste, hyperactiviste. Elle a bien sûr dénoncé des internements abusifs des femmes, mais elle s'est beaucoup battue, elle a écrit beaucoup de livres... Pour la libération de la femme. Elle disait que les femmes ne devaient pas se marier, mais vivre en communauté.
Yes.
elle avait un point de vue assez singulier sur les relations sexuelles, puisque elle prenait la virginité. Elle disait, on n'a pas besoin des mecs. Si on n'a pas envie, on peut rester vierge. Donc voilà. Mais effectivement, la santé mentale, ça a été un enjeu historique très important.
Et pour contextualiser un peu, aujourd'hui, le poids des mots est important. Donc, pour parler de ces personnes-là, on ne dit pas fou ou folle, puisque c'est quand même très discriminant et aussi pas très précis.
Mmh. Oui, ça recouvre trop de trucs en fait.
Ouais. Does that make me crazy?
Does that make me crazy? Il y a des études, selon certaines d'entre elles, les femmes sont deux fois plus souvent concernées que les hommes par la dépression.
Ah ouais.
Et représentent 60% des consommateurs d'antidépresseurs. Alors, elles ne sont pas vraiment plus sensibles par nature que les hommes, mais en fait, les femmes, c'est une catégorie de population à risque qui est plus susceptible de souffrir de troubles dus notamment à des facteurs sociaux. Donc la charge mentale, le harcèlement, les micro-agressions, le poids de l'histoire, le sexisme au quotidien. Il y a beaucoup de choses recouvrent. Et puis même la socialisation en tant que femme, en tant que genre femme, au final, pèse sur, sur
oui,
la
ça
psyché.
Fragilise. Mmh. Et on a aussi pu remarquer qu'au travail, on retrouvait ces chiffres-là et que la situation n'était pas meilleure. D'ailleurs, l'assurance maladie a publié un rapport au mois de janvier qui montre que les affections psychiques concernent majoritairement les femmes, donc dans près de 60% des cas. Et cette étude dit, je cite, « Une plus grande exposition des femmes au burn-out, aux violences internes et externes au lieu de travail, telles que le harcèlement, les agressions, mais aussi la sensation d'inadéquation entre la tâche exercée et la récompense obtenue. » Donc, je tiens à préciser, si vous êtes un ou une employeur ou employeuse, merci de ne pas vous servir de cette étude pour ne pas embaucher de femmes dans vos entreprises. Voilà. Au contraire, il faudrait plutôt améliorer la prise en charge et la prévention. Et alors, est-ce que personnellement, toi, tu te sens
concernée?
Ouais.
Alors moi, j'ai fait un burn-out en 2012.
Bienvenue au club.
Je suis arrivée à un moment de ma vie où j'arrivais plus à rien, en fait. Enfin, j'avais qu'une envie, c'était être sous ma couette et ne plus voir personne. Et j'avais beaucoup de sentiments négatifs vis-à-vis de moi-même, problèmes d'estime de soi. J'avais l'impression que j'avais tout raté en fait dans ma vie. Donc c'était des symptômes dépressifs, hein, y avait pas de...
Ouais. Bon, après le burn-out des millennials, ça pourrait faire un épisode à part, hein. Je pense voilà, on en parle.
Oui, parce que en plus il y a des circonstances économiques. Et en fait j'ai mis quand même un an avant de me décider à aller voir quelqu'un. Alors moi je suis allée voir une psychologue et j'ai choisi de faire de la thérapie cognitive.
Donc une thérapie brève.
Voilà, une thérapie courte qui en fait surtout agit sur les processus mentaux négatifs. Et en fait, comment changer tes schémas de pensée maintenant, tu vois, quand ils arrivent. Et parce que souvent, on a des schémas négatifs qui se répètent, on fait les mêmes erreurs encore et encore et encore. Et du coup, ça cause la dépression. Parce qu'en fait, ces schémas-là qu'on a dans notre tête, ils remontent souvent à l'enfance. Et ils sont une sorte d'interprétation de ce qui se passe autour de nous, quoi.
Oui, un filtre, en fait.
Voilà, c'est ça. Et du coup, la TCC, ça permet vraiment d'essayer de créer des schémas alternatifs positifs. Et donc, ça aide dans beaucoup de situations, notamment dans l'addiction. Quand on est accro à quelque chose de négatif, et ben en fait, la TCC, ça t'aide à trouver une manière d'obtenir la même sensation de plaisir que tu peux avoir dans ton addiction, mais en faisant quelque chose de positif.
D'accord.
Enfin, voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça a duré à peu près un an. Ça m'a énormément aidée. Ça m'a surtout fait comprendre beaucoup de choses. Parce que le problème de la dépression, c'est que tu as l'impression que tu es toute seule à avoir ce problème-là et que tu es un monstre et qu'il ne faut surtout pas en parler Et que voilà, alors qu'en fait, quand tu vois une bonne psy, et ben généralement, ça t'aide à comprendre que t'es juste un être humain et que t'es quelqu'un de normal à qui il arrive juste quelque chose, quoi. Et toi ?
Eh ben moi, tout pareil. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très anxieux. J'ai plein de phobies, par exemple la claustrophobie. Je suis aussi insomniaque, je fais des crises d'angoisse et de panique. Enfin, pas tout le temps, heureusement. Mais voilà, du coup, moi-même, j'ai passé plusieurs festivals de Cannes à me cacher dans les toilettes pour pleurer, à paniquer avant de faire des interviews. Enfin, tout s'est toujours bien passé, mais c'était beaucoup d'anticipation et de projection en fait anxieuse avant les faits, quoi. Mmh. Qui n'avaient pas lieu d'être, évidemment. Et donc voilà, moi aussi j'ai une psy qui est super, et je recommande à tout le monde de lire les comptes Instagram Introvert Doodles, donc pour les personnes introverties, et aussi Wrapped in Anxiety, qui est un compte Instagram très drôle, avec des petits personnages qui se cachent dans leur couette et qui ont peur d'aller faire les courses et d'aller se retrouver dans des situations sociales qui créent de l'anxiété.
On les comprend. Ouais. Mais moi du aussi. Coup, alors la santé mentale, c'est genré, c'est ce qu'on a dit au début. Tu peux nous en dire plus ?
Bah oui, tout à fait. Et c'est souvent une question d'éducation. C'est-à-dire qu'on a tendance à éduquer les hommes à ne pas avoir de visibilité en fait sur leurs sentiments et à croire que consulter un psy, c'est forcément être faible. Et donc tout ça, évidemment, ça crée d'autres pathologies. Et donc nous, enfin, en tant que femmes, on a au moins la chance d'avoir appris à nous exprimer, en tout cas en général, et à verbaliser ce genre de choses. Mais après, voilà, reste le stigmate social est valable pour tout le monde, j'ai l'impression.
Alors, c'est vrai qu'on a un problème dans le diagnostic, parce que le mythe de l'homme viril qui n'a besoin de personne est encore aujourd'hui très, très idéalisé. Mmh. Et ça rend la dépression masculine difficile à diagnostiquer. Comme tu dis, hein, y a la question centrale de l'éducation. En gros, les garçons, on les pousse, ils sont poussés par les parents, par l'école, par la société en général à prendre des risques.
Des conduites à risque.
Voilà, et c'est pas grave s'ils échouent. Il faut pas avoir peur, et surtout, il faut pas montrer que t'as peur, même si t'as peur. Alors que moi, je trouve personnellement que la société encourage beaucoup les petites filles à l'inquiétude et à l'inaction dès leur plus jeune âge.
Oui, elle a beaucoup de passivité, quoi.
Voilà, exactement. D'abord, il faut être poli. Souvent, enfin, moi, je me rappelle et je vois encore beaucoup de gens qui disent à leur petite fille, il faut être poli, souriante, il ne faut pas se salir, il ne faut pas courir, il ne faut pas se battre. Donc ça, c'est quand on est petite. Puis plus tard, quand on devient ado, c'est ça y est, l'injonction à ne pas prendre de risques. Donc il ne faut pas sortir seule la nuit, il ne faut pas provoquer. Mmh. Alors on ne sait pas ce qu'on peut provoquer.
C'est la cause de tous les viols, d'ailleurs, voilà. C'est qu'on est sorti la nuit.
C'est ça, qu'on a mis une jupe. Et surtout, il faut faire systématiquement attention au viol. En fait, la peur du viol, pour moi, arrive à l'adolescence. On dit, mais attends, il ne faut pas t'habiller comme ça, parce que... Ouais. Et on inculque cette peur qui est, pour les filles, la pire chose qui pourrait arriver, ce serait de se faire violer.
Oui, du coup, on a presque un rapport phobique, en fait, et donc, au reste du monde. Quoi.
Et donc, en fait, ça, je pense que ça développe vraiment ce truc d'inquiétude et d'hypervigilance chez les femmes qui, après, ont un impact sur la psyché et font qu'au bout d'un moment, on craque, quoi. Parce que psychologiquement, toujours faire attention à comment on est, comment on se présente vis-à-vis du monde extérieur, ça rend ouf, quoi.
D'ailleurs, ça date des années 60, dans son essai « La femme mystifiée », Betty Friedan écrivait « Le malaise, qui n'a pas de nom, naît simplement du fait qu'on empêche les Américaines de s'accomplir pleinement, impose au pays un tribut bien plus élevé de santé psychique et morale que n'importe quelle maladie connue. » Donc voilà, c'est QFD.
On va pouvoir écouter le témoignage d'une experte qui s'appelle Joanne Tatam, qui est coach pour femmes et qui est amie de ce podcast. On l'a interviewée sur les causes principales des problèmes mentaux de ses clientes.
Dans le cadre de mon travail, moi, je vois beaucoup de femmes qui ont tendance à tout prendre en charge à la maison. Pas parce que leur conjoint ne veut pas les aider, hein, mais simplement, elles le font et puis c'est tout. Elles ne demandent pas d'aide, même si elles ont de gros journées de travail. Et quand on travaille ensemble, ce qui ressort très souvent, c'est qu'elles n'ont pas vraiment à 100% conscience de ces besoins. Il y a beaucoup de culpabilité, en fait, autour de leurs besoins et de leurs envies. C'est perçu comme de l'égoïsme. Et finalement, c'est un petit peu comme si elles endossaient un rôle qu'elles n'ont pas nécessairement choisi, hein, parce que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elles aimeraient que ça se passe autrement, mais elles ont un peu hérité de ce rôle et elles endossent les responsabilités qui vont avec. Donc, je leur rappelle que si elles prennent pas de temps pour appuyer sur pause, pour souffler, recharger leur batterie, ben, tout risque de s'effondrer, à commencer par elles-mêmes. Et je leur offre un espace qui leur permet de s'autoriser, à se faire passer en premier, à se reconnecter à elles-mêmes, à leurs besoins, à leurs envies, parce qu'elles ont parfois besoin d'apprendre à le faire. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, on reprend les bases ensemble.
Donc, on a bien compris, il faut reprendre confiance en soi.
Voilà.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs sociaux en fait, qui contribuent souvent à la dépression féminine. C'est vrai que tous les individus peuvent souffrir de troubles, mais on a l'impression que la condition féminine nuit parfois au bien-être, puisque être objectifié en permanence, ça n'aide pas du tout à se penser comme un sujet agissant. Être harcelé dans la rue, non plus. Être mal payé et donc méprisé, ça donne beaucoup de problèmes d'estime de soi. Puis du coup, on négocie aussi moins bien sa rémunération. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et voilà, et le sexisme, ça peut aussi agir voilà, sur l'image qu'on a de soi à travers les publicités et tout ce que ça nous renvoie
voilà,
au visage
ouais.
En permanence. Ouais.
Et puis les femmes sont plus souvent victimes de violences et survivantes de violences sexuelles. Mmh. Et bien sûr, ça a des conséquences très fortes sur le psychisme.
Ouais, à long terme.
Voilà, à long terme. Effectivement, il y a le syndrome prémenstruel et occasionnellement les hormones foutent le bazar dans notre corps et dans notre tête. On est déprimé, on est en colère, on est fatigué. Mm. C'est pas une raison pour pas nous donner des boulots.
C'est ça. C'est ça. Mais on n'a pas envie qu'on nous le fasse remarquer tout
ouais.
le temps.
Ouais. Et puis, du coup, c'est terrible. C'est-à-dire que si t'es en colère pour une vraie raison, on va te dire ah mais alors t'as tes règles.
Ouais, c'est ça. Mais t'as aussi le droit d'être en colère quand t'as tes règles. C'est ok.
Et puis, bien sûr. La maternité est inégalitaire. Les femmes supportent le poids du postpartum, la charge mentale de l'élevage des enfants. Après, c'est marrant parce qu'il y a énormément d'études sur le postpartum féminin,
ouais.
Mais il n'y en a quasiment pas sur le postpartum masculin.
Mm.
Donc en fait, on, tout ce qui touche à la maternité, aux enfants, à comment en fait, quelle est l'influence d'avoir un enfant sur la vie, eh ben, y a énormément d'études qui ont été faites sur les femmes, mais rien sur les hommes.
Ouais.
C'est quand même intéressant.
Bon, c'est quand même très lié à l'accouchement, donc je pense que c'est...
Oui, mais après, il y a aussi le quand tu élèves l'enfant.
Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, on va écouter le témoignage d'une auditrice, Ingrid, qui nous a parlé justement de sa dépression postpartum lors de la naissance de son deuxième enfant, qui est une fille. En fait, elle nous a raconté qu'elle a eu beaucoup de difficultés à allaiter, qu'elle s'est mise à pleurer tout le temps, qu'elle dormait très mal, qu'elle a failli se séparer de son conjoint et qu'elle voilà, ne supportait plus ses enfants. Et elle a fini par aller enfin voir un psychiatre qui lui a prescrit des médicaments.
Je me sentais folle, je supportais plus les enfants, je supportais plus la vie dans cette maison, je supportais plus rien. Je me sentais harcelée et j'avais besoin de me sauver. Je fantasmais de tout laisser en plan et de me barrer, quoi. Et puis en plus, du coup, j'avais arrêté de travailler. Enfin, je travaillais plus trop à ce moment-là. Je pense que j'avais pas que le truc du postpartum, je pense que c'était aussi... Mon dernier projet n'avait pas bien marché, c'était la merde. Je me sentais nulle, et puis nulle du coup dans mon travail, et nulle en tant que mère, et nulle en tant que femme. Enfin, c'était... Bref, j'étais nulle.
Et là où ça se corse, c'est quand on cumule en plus les discriminations. Donc par exemple, quand on est une femme LGBT ou racisée, par exemple, si on vous met genre, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas identifier la personne à son genre choisi, ça peut être très souvent vécu comme une forme de violence.
Donc c'est par exemple appeler une femme transgenre par son ancien prénom
ouais.
masculin.
Voilà, ou dire monsieur.
Ouais.
Ouais.
D'accord. Il y a aussi bah, bien sûr les femmes racisées. Qui sont victimes de clichés, notamment les femmes noires, qui sont fortes et qui sont jamais déprimées.
Mmh. Toujours de bonne humeur.
Voilà, toujours de bonne humeur, toujours prête à danser et à faire la cuisine. Non, mais effectivement, il y a ce point important aussi de vouloir chercher des psys ou des praticiens, des médecins qui nous ressemblent et qui sont aussi racisés.
Oui, qui peuvent comprendre.
Voilà, qui peuvent comprendre les enjeux auxquels on fait face. Notamment parce que quand on parle de racisme à un médecin qui n'est pas racisé, on peut se retrouver face à quelqu'un qui va nous dire « Mais peut-être que vous exagérez, c'est pas si grave, vous êtes sûr ?»
C'est dans votre tête.
Vous voyez peut-être le mal partout quand même. Et en fait, non. Surtout quand on vit mal une situation de racisme, on a besoin de se retrouver face à quelqu'un qui comprend sans devoir se défendre et expliquer, dire ça en fait c'est du racisme. Et ça a été prouvé, il y a eu des études qui prouvent que le racisme rend malade, notamment au travail. Les micro-agressions, le fait de, bah, de se faire toucher les cheveux, de se faire, de se prendre des petits « Ah, mais tu viens d'où ?» Enfin, ouais. des micro-agressions permanentes, ou même un racisme plus ouvert, et ben, en fait, ça peut mener au burn-out, à l'arrêt maladie, à la démission. Et généralement, en tant que personne racisée, on ne veut pas envenimer la situation quand ça arrive.
Ouais.
Donc, quand on se retrouve face à un acte de racisme, le premier, on va dire, le premier réflexe qu'on a, c'est de se silencer, quoi. De se dire, je dis rien, ça va passer, c'est pas grave. Mais quand tu te silences 50 fois, ben, au bout d'un moment, c'est ton corps qui prend, quoi. Ouais. C'est ton esprit qui prend. Et le corps, en fait, produit du cortisol, qui est l'hormone du stress, et la pression sanguine augmente. Et donc, ça a été mesuré.
Ça se vérifie, scientifiquement.
Donc, c'est des maladies physiques autant que psychiques. Et je veux juste en profiter pour placer Marie Da Silva.
Oui, que faire dans ces cas-là?
Voilà, Marie Da Silva, qui est coach de vie en entreprise pour femmes racisées et qui a une agence qui s'appelle Cali Works. Elle fait un travail incroyable. Elle donne des stratégies de survie et de combat au quotidien contre le racisme pour les femmes racisées en entreprise. Et c'est génial. Il faut la suivre sur Twitter. Elle a un hashtag qui s'appelle Jeudi Survie au taf, où elle raconte des expériences avec ses clientes et comment elle les a aidées, à quoi elles ont fait face. Et voilà, donc Marie, géniale. Et il y a aussi également un podcast français qui s'appelle Exhale, qui est produit par le site Atouba et qui traite du bien-être des femmes noires en général.
Oui, c'est top.
Nous voilà, bienvenue sur Exhale.
Le numéro 3, enfin.
Enfin! Comment ça va, Adama?
Ça va, aujourd'hui ça va bien.
Et alors là où ça se complique, c'est que, donc comme tu le disais, il y a souvent du sexisme et du racisme dans la médecine, donc chez les personnes qui sont censées vous accueillir.
Qui n'est pas objective et neutre.
C'est ça, et donc c'est vrai que c'est vraiment un cercle vicieux, puisqu'on prend moins au sérieux en fait la souffrance des femmes. On leur dit « Ah, vous êtes douillette, tout est dans la tête », voilà. Et donc on a tendance à les pathologiser et à ne pas les écouter. Et à ce sujet, je recommande chaudement la page Facebook qui s'appelle « Paye ton psy », qui recueille des témoignages en fait, de patientes qui ont subi à la fois du sexisme et des remarques LGBT-phobes en milieu psy. Donc un exemple parmi des centaines d'autres. Donc un psy qui dit à sa patiente, qui avait 11 ans à l'époque, « T'es sûre que c'était un viol ? Rien ne prouve que t'étais pas consentante. » Donc un autre exemple, après une tentative de suicide... Un psy qui dit à la patiente « Ça se voit dans vos yeux que vous aimez coucher. Allez, je vous prescris ça. » Donc voilà, merci pour le bon conseil. Voilà, donc la liste est longue et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail pour former le personnel médical en fait, à ces questions-là, ouais. À la prise en charge.
Il y a beaucoup de préjugés en fait chez les médecins, même si ils ont fait des études et même si ils sont censés être neutres et tout. Préjugés sexistes et racistes, ils sont là quoi. C'est flippant.
Et en attendant, on ne peut compter que sur soi. Alors, comment faire?
Eh bien oui, on va parler du self-care. Alors, le self-care, il n'y a pas vraiment de traduction. C'est la, quoi, se prendre soin de soi.
Ouais, le soin de soi.
Le soin de soi. Donc, ce n'est pas que s'acheter des bougies et prendre des bains en écoutant du Marie Carré, même si ça peut être ça.
Oui, ça, c'est la version très consumériste et light.
Voilà. Mais en fait, le self-care, c'est faire ce qui va vous donner du pouvoir et vous aider à affronter votre vie sous tous ses aspects. Donc, le sexisme, le racisme, la LGBT-phobie, etc. Donc, en fait, le self-care, ça peut juste être dire non. Plus souvent, quand on veut du temps.
Quand on vous demande des services en permanence parce que vous êtes une femme.
Voilà, et ben non. Ça peut aussi être désinstaller les applications de réseaux sociaux de votre téléphone, les notifications. Ça peut être prendre le temps de méditer le matin, lire des livres plus souvent, aller chez le psy, même si ça vous coûte un petit peu d'argent. Voilà. En fait, c'est se trouver du temps pour soi et utiliser des moyens pour soi. Pour son bien-être mental. Et ce qui implique d'en donner moins aux autres. Mais c'est pas grave. Et effectivement, le self-care, pour moi, c'est politique parce que ça contredit le modèle de la femme qui donne à tout le monde, aux enfants, à son mec, à son boulot, et qui doit soutenir les autres et aider les autres avant de s'aider elle-même.
Ouais. Donc il vaut mieux donner à soi-même et regagner de la capacité d'agir et de la confiance en soi d'abord.
Voilà, et donc le self-care, ça a été un outil politique pour bon nombre d'activistes féministes, notamment pour les femmes racisées.
Ouais, surtout actuellement, enfin, en tout cas aux États-Unis avec le climat politique.
Ouais.
Le moment pop culture. Donc on va arrêter de parler de nous et parler plutôt donc de pop culture, puisque c'est vrai que la culture de la célébrité a très longtemps traqué les désordres mentaux un peu par voyeurisme souvent. Mais heureusement, enfin, j'ai l'impression que la situation a un petit peu évolué aujourd'hui, puisque de plus en plus de stars ou de célébrités sont assez ouvertes sur leurs troubles, en fait. Enfin, on se souvient qu'à l'époque de Britney qui s'était rasée.
Ça, je pense que ça serait traité différemment maintenant.
Ouais.
L'épisode de Britney.
Mais surtout, peut-être qu'elle, elle dirait quelque chose, en fait.
Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était honteux, quoi.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple ?
Bah, on peut remonter un petit peu avant Britney. On peut parler des autrices qui avaient une espèce de figure tragique et suicidaire. Sylvia Plath, Virginia Woolf. Parce que du coup, selon la légende, ces femmes, elles sont mortes parce qu'elles elles réfléchissaient trop, elles écrivaient. Et du coup, elles étaient trop intelligentes et forcément, elles se sont suicidées. Quoi.
C'est pas de bons modèles identificatoires. Ça donne pas envie aux filles de devenir artistes. Quoi. Du coup, on voit que c'est dangereux, quoi, potentiellement. Sinon, on pense à la chanteuse Adele. Hello, it's me. Qui, elle, souffre d'anxiété. Elle explique qu'elle refuse souvent de faire des tournées et de jouer devant des foules en délire. Parce que voilà, ça renforce vraiment ses angoisses, tout comme le fait d'être très exposée médiatiquement.
Sinon, on a aussi Lady Gaga. You tell me it gets better, it gets better in time. Qui souffre de PTSD, donc c'est le syndrome de choc traumatique, post-traumatique.
Oui, stress post-traumatique.
Stress post-traumatique. Et elle en a beaucoup parlé. D'ailleurs, elle en parle aussi beaucoup dans ses chansons, hein, du fait qu'elle a des troubles.
Dans la littérature, il y a des auteurs jeunesse très très prisés comme John Green qui a écrit Nos étoiles contraires. Et son dernier livre, d'ailleurs, parle de ses troubles. OCD, enfin de ces TOC en fait, de ces. Je sais pas comment dire en français, troubles obsessionnels compulsifs, voilà.
Sinon, il y a aussi l'actrice Carrie Fisher, qui est la princesse Leia.
RIP.
Et donc, elle était bipolaire et elle voyageait avec un chien pour personnes malades. Et elle a aussi beaucoup écrit sur ses maladies mentales. Et donc, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, peut-être que, comme tu dis, c'est devenu plus accepté, quoi.
Donc, de manière générale. Je trouve que la culture a souvent négligé en fait la maladie mentale parce que ça a été jugé pas très glamour, ou alors souvent à l'inverse, ça a été complètement surexploité de manière très complaisante.
Ouais, moi j'ai notamment le souvenir de la figure de la femme hypersexuelle dans les films des années 80 ou 90 qui s'avère être folle. Je sais pas si tu te souviens de Glenn Close dans Liaison fatale.
Sexe égale danger.
Voilà. I'm not going to be ignored, Dan. Ou sinon, même à la femme fragile et complètement dépossédée d'elle-même, comme Mabel dans Une femme sous influence de John Cassavetes. Oh, my head, what a headache! Help! Oh, yes, that feels good! Qui est un très bon film, mais voilà, le personnage est vraiment comme ça. Et surtout, dans tous les cas, dans ces films-là et dans beaucoup d'autres, en fait, la femme qui a un problème mental est vue à travers les yeux d'un homme. Et cet homme l'aime ou la hait pour sa maladie.
Et en plus, elle est intégralement définie, en fait, par sa maladie.
Ouais, c'est ça. Et on ne voit pas son intériorité, quoi. On ne voit pas comment elle vit d'être malade. C'est comment l'homme, il vit sa douleur parce que sa femme est malade. Enfin, voilà.
Ouin, ouin. Alors, est-ce qu'il y a des séries qui sont de meilleurs modèles de représentation ?
Bah, franchement, ces dernières années, moi, j'ai vraiment trouvé qu'on a eu des séries, notamment venues des États-Unis, qui parle de la maladie mentale. Alors moi, mon gros coup de cœur, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Je t'en ai déjà parlé. Qui est une série très colorée, avec des numéros musicaux, au premier abord, ressemble un peu à un dessin animé. Mais en fait, ça offre une description hyper réaliste de la maladie mentale du personnage principal qui s'appelle Rebecca Bunch. Et qui, en fait, est un personnage bipolaire. Donc, en fait, passe par toutes les phases obsessionnelles, maniaques. Elle a peur d'être abandonnée. En même temps, elle se hait. Il y a d'ailleurs une chanson qui me donne toujours des frissons de cette série qui s'appelle You Stupid Bitch, où elle parle du fait qu'en fait, elle a tout gâché dans sa vie parce qu'elle est... Et elle s'insulte, en fait. Elle se couvre d'insultes elle-même.
You ruined everything, you stupid, stupid Ouais, c'est les pensées dysfonctionnelles qui reviennent.
Voilà, exactement. Et dans la dernière saison, attention spoiler, il y a même une tentative de suicide qui je trouve, a été très bien traitée. Pas du tout racoleuse, pas du tout... mais vraiment réaliste. Et c'est ça qui est fou avec cette série, c'est que c'est à la fois complètement un peu perché parce qu'elle a des espèces d'épisodes dans son imagination. Et à côté de ça, quand même, la série est hyper réaliste.
Alors moi, j'en suis pas encore à 4e saison, donc je suis ravie d'apprendre... de m'être fait spoiler. Sinon, il y a une autre série qui parle beaucoup de ces questions-là, c'est Girls.
I think that I may be the voice of my generation, or at least a voice of a generation.
Donc, sa créatrice et comédienne Lena Dunham, elle souffre de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs. Elle en a beaucoup parlé, et son personnage en parle aussi dans la série.
Anna,
ouais. Et elle a été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. On se souvient que dans la série, à un moment, elle s'enfonce un coton-tige dans l'oreille très, très, très profondément et qu'elle a des phases maniaques d'hyperactivité et des phases très dépressives. Et elle-même, elle en a parlé dans son livre qui s'appelle « Not that kind of girl ». Et elle écrit « J'ai peur de tout. La liste des choses qui me réveillent la nuit inclut l'appendicite, la typhoïde, la lèpre et la viande pas propre ». Voilà, ça fait beaucoup.
Ouais. Il y a aussi la série 13 Reasons Why,
ouais,
sur Netflix.
Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée.
Donc, c'est une série qui traite du harcèlement scolaire, mais aussi, à mon humble avis, du sexisme, qui pousse en fait une ado au suicide. Donc en fait, le pitch, c'est l'ado s'est suicidée, mais a laissé des cassettes derrière elle. Et en fait, en écoutant ces cassettes, on comprend pourquoi elle a été, elle s'est suicidée. Et il y a 13 raisons. Alors ouais, il y a eu des critiques.
Oui, donc l'engouement a été très fort. Et c'est vrai que beaucoup de critiques on dit que c'était très putassier et que presque ça incitait au suicide, que ça le glamourisait. Moi, je ne suis pas certaine que ce soit le cas.
Moi non plus. Alors effectivement, il y a un côté très... il y a des scènes qui, moi, m'ont assez choquée, notamment la scène du suicide et puis des scènes de viol. Et du coup, oui, ces scènes-là sont parfois exagérées. Mais par contre, j'ai trouvé les réactions des adolescents et de l'héroïne et de tous les personnages très réalistes, en fait. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est une drama queen, qu'elle en fait trop, qu'elle fait juste ça pour se faire remarquer. Il y en a qui voient sa détresse, mais qui s'en fichent. Il y en a qui sont tellement pris dans leurs propres problèmes, en fait, qui n'arrivent pas à l'aider. Et elle, on voit petit à petit, en fait, comment elle en vient à se dire qu'il n'y a pas d'autre solution pour elle, quoi. Et que sa vie n'a pas de sens, en fait, et que du coup, il vaut mieux en passer par là, quoi. Et moi, j'ai vu les ficelles, le côté un peu putassier, comme tu dis, mais je trouvais quand même qu'il y avait un beau boulot en termes de... sur le harcèlement, quoi.
Et moi, un autre personnage que j'aime bien, qui n'est pourtant pas très sympathique, c'est Carrie Mathison, qui est jouée par Claire Danes, dans la série Homeland. Et donc elle joue une enquêtrice de la CIA. Et en fait, elle est bipolaire, mais elle est ultra compétente. Elle a une attention décuplée. Et en fait, pendant pas mal d'épisodes, elle cache sa maladie en fait, à son employeur. Et quand les gens de la CIA savent qu'elle est malade, ils vont tout le temps essayer de la délégitimer, de dire « Ah, elle est folle, on ne peut pas lui faire confiance, c'est une traîtresse ». Donc voilà, donc souvent on lui met tout sur le dos quand ça nous arrange. Ouais, moi j'aime beaucoup ce personnage. C'est vrai qu'on a critiqué la série en disant qu'elle montrait une vision sensationnaliste de la maladie mentale en créant un suspense en fait là-dessus. Genre, est-ce qu'elle va craquer son slip ? On ne sait pas. Ouais. Donc voilà, bon, moi je trouve pas. Après, j'ai pas vu les dernières saisons récemment, donc je sais pas très bien comment ça évolue. Mais...
Alors, il y a aussi la série anglaise My Mad Fat Diary qui est adaptée d'un livre de Ray Earle et en fait qui parle d'une ado obèse de 16 ans qui va à l'hôpital pour tentative de suicide et scarification et qui en fait l'histoire commence quand elle revient en fait et qu'elle se retrouve dans la vie de tous les jours et qu'elle essaye de se réadapter.
Et si jamais quelqu'un tombe un jour sur ce journal, le lit et en conclut que je suis dingue, il aura tout compris.
Mais elle doit qu'elle cache ça. Elle a appris que sa mère avait caché à tout le monde. Voilà. Avait dit ah elle est en voyage.
Elle est en vacances. Ouais. Et c'est très. Enfin moi j'ai vu que la série. J'ai pas lu le livre, mais c'est très très émouvant. C'est drôle, c'est réaliste. Le personnage principal, il est incroyable. En plus, ça se passe dans les. Le livre, ça se passe dans les années 80, mais la série se passe dans les années 90.
Oui.
Donc il y a sur fond de Britpop.
Période Oasis.
Et c'est génial parce qu'en fait, la série, pour moi, c'est vraiment l'apprentissage de l'amour de soi. Comment, petit à petit, elle apprend à ne plus se haïr, même si elle est grosse, même si elle a tenté de se suicider. Et donc, en fait, on voit comment gérer la dépression avec un psy et des amis qui vous entourent. Comment accepter que les autres vous aiment malgré le fait que vous pensez horrible et pas aimable.
Et que les autres vous aident aussi.
Alors, vous pouvez retrouver les ressources et plein d'autres conseils intéressants autour de la santé mentale dans la description de l'épisode.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf ?
Alors, Clémentine, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ?
Alors, moi, j'ai une recommandation qui n'est pas très, très enthousiaste, mais qui m'a quand même intéressée. C'est le film « Moi, Tonya », réalisé par Craig Gillespie, avec Margot Robbie et Allison Janney, qui sort en salle le 21 février.
J'étais la meilleure patineuse artistique du monde pendant un moment.
C'est ce que t'appelles patiner, bordel.
Pas de gros mots devant les enfants.
J'ai rien dit de mal, connasse.
Donc, si jamais vous ne vous souvenez pas de l'affaire Tonya Harding-Nancy Kerrigan, qui est quand même juste l'un des plus gros scandales sportifs de tous les temps, c'est sans doute que vous êtes né dans les années 90, donc je ne vais pas vous spoiler. En tout cas, voilà, pas besoin d'être expert en patinage artistique pour voir le film. Moi, je trouve qu'il s'inscrit assez bien dans notre thématique, en fait, parce que c'est une espèce de démonstration sur comment on fabrique des individus avec beaucoup de traumas, en fait. Donc, c'est un portrait de Tonya Harding. Donc, c'est une jeune fille issue des classes populaires aux États-Unis qui est née dans l'Oregon. Et en fait, elle est devenue patineuse artistique professionnelle. Et elle a été victime de violences familiales et ensuite de violences conjugales. Donc, elle a vraiment
cumulé
au cours de sa vie. Et voilà, bon, moi, je m'en fiche un peu de savoir si elle est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je trouve que le film est parfois curieux dans le ton qu'il a. Mais voilà, je trouve très intéressant dans la manière dont il montre comment le sport, en fait, traite des personnes issues des classes populaires, puisqu'on voit qu'elle a toujours été rejetée, elle n'avait jamais les bons habits, on lui disait qu'elle était white trash, on lui jetait des trucs sur le...
Elle était petite aussi, de taille.
Ouais, ouais, enfin voilà, rien n'allait, alors que techniquement, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent. Et en plus, voilà, comment sa carrière a été pénalisée par la manière dont elle cumulait tous ses traumas et comment ça a fini par vraiment entraver sa vie. Voilà, je ne vous révélerai pas, mais c'est pas gay. Voilà. Et toi ?
Alors, moi, je vais vous parler d'une série dont tu t'avais déjà parlé dans la newsletter, Clémentine, ouais. Que j'ai découvert au fond de mon lit d'hôpital. Merci Netflix. Donc, Grace and Frankie, une série avec Jane Fonda et Lily Tomlin, qui découvrent à l'âge de 70 ans que leurs maris respectifs, en fait, sont amoureux l'un de l'autre et qu'ils les quittent pour se mettre ensemble.
Il n'est jamais trop tard.
Voilà.
We want to talk to you about something. Saul and I are in love.
Excuse me? You're gay.
We want to get married.
Oh, married!
Moi, j'ai trouvé ça génial. En fait, j'ai regardé les quatre saisons. La dernière saison est sortie en janvier, donc il n'y a pas très longtemps. C'est super, super drôle. C'est très bien écrit. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'on ne voit pas souvent... Il y a des séries et des films sur ça, mais ce n'est pas très courant quand même de voir quelque chose sur la libération de deux femmes après l'âge de 70 ans, quoi. Ouais. Que ce soit au niveau de leur famille, au niveau de leur vie sexuelle, au niveau de leur vie amoureuse, leur vie amicale.
Bah, de toute façon, il y avait même un sketch là-dessus sur les femmes de plus de 40 ans qui juste disparaissent. En fait,
vous ne vous intéressez
écrans.
Plus,
c'est ça.
Salut. Mais du coup, là, ça se focalise vraiment sur ça. Donc en fait, je trouve ça génial parce qu'elles picolent. Elles vivent dans une maison au bord de la mer qui est mon rêve. et puis elles rigolent. Et puis elles ont vraiment des tempéraments très différents. Grace, donc, qui est interprétée par Jane Fonda, elle est très collée montée, businesswoman. Et puis Frankie qui est complètement décalée.
Hippie.
Voilà. Non, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé ça très mignon. Tous les acteurs sont drôles et intéressants. Et je conseille ça. Ça se regarde très, très bien en mode binge-watch.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ?
Donc cette semaine, c'est Ariane qui nous a envoyé une missive, une question. Elle écrit « Pour se libérer du poids des enfants et travailler au même poste que les hommes, de nombreuses femmes blanches ou couples blancs font garder leurs enfants par des femmes noires, racisées ou d'origine étrangère, qui ont par ailleurs probablement aussi des enfants. J'ai entendu Amandine Gay, donc la réalisatrice, pointer ce problème que les féministes blanches ne verraient pas. Mais comment résoudre cette contradiction ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ce problème ? Eh ben oui, nous.
Oui. Effectivement, on avait évoqué le sujet dans l'une de nos newsletters l'année dernière, il y a quelques mois, parce que c'est une contradiction compliquée, puisque ça mêle le capitalisme, le patriarcat, la classe, la race, en fait, tout se mélange dans ce problème. Mais c'est vraiment, notamment dans les pays développés comme le nôtre, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout quand on se dit féministe et que ces questions nous intéressent.
Ouais. Donc, et qu'on veut aussi faire garder ses enfants, si possible.
Voilà. Ouais. Le problème de ce qu'on appelle le féminisme blanc, c'est que c'est un mouvement uniquement pensé dans le but de donner aux femmes blanches l'égalité par rapport aux hommes blancs. En gros, elles veulent le même salaire, les mêmes droits, le même pouvoir, et pour y arriver, tant pis si ça implique de laisser sur le bas-côté des femmes racisées, quoi. Sachant que les femmes racisées, elles ont souvent qu'une fraction des droits et des acquis que les femmes blanches ont. Du coup, ça implique aussi que les femmes blanches peuvent utiliser et opprimer les femmes racisées dans des emplois sous-payés, sous-valorisés, pour accomplir cette égalité entre femmes et hommes blancs. Et donc, c'est très, très problématique. Alors, personnellement...
Sacrifie une partie des gens pour accéder à son bien-être.
C'est en gros, il y a une partie des femmes qui en sacrifient une autre pour pouvoir atteindre l'égalité avec les hommes. Alors moi, je suis pas une femme blanche, mais par contre, je suis, en termes de classe, on va dire que j'avais les moyens à un moment de me payer une femme de ménage. Et en fait, j'ai choisi de ne plus faire appel à une femme de ménage parce qu'en fait, l'inégalité de la répartition des tâches, ça vient de l'inégalité salariale. Si l'homme gagne plus d'argent, il considère comme normal que sa femme fasse tout à la maison, fasse tout le ménage. Parce qu'en gros, vous êtes sa femme de ménage non payée.
Ouais, c'est ça, c'est pratique.
Voilà. Alors, moi, j'ai trois conseils. Numéro 1, refusez la charge mentale. Vous n'êtes pas la chargée des relations ménagères de la maison avec votre mec comme stagiaire. C'est pas à vous de faire systématiquement les listes, savoir tout ce qu'il faut faire. Ça a été très insidieux, la notion de charge mentale. Ça a été aussi popularisé par la BDaste Emma. Et c'est un combat de tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Mais la stratégie qui, moi, je pense... marcher, c'est celle du disque rayé. Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta mère. et de laisser tomber l'hypervigilance, se faire violence et se dire, bah non, c'est pas à moi de tout le temps, tout gérer, quoi. Deuxième point, éduquer les fils et les conjoints. Donc en fait...
Une pierre deux coups.
Voilà, c'est ça. Il faut... Malheureusement, ça repose encore sur les femmes. Mais bon, il faut, dans l'idée, leur faire les tâches ménagères dès le plus jeune âge. Je parle des enfants. Hein. Leur apprendre que c'est normal et que ce n'est pas un miracle s'ils font des tâches ménagères. Et il faut surtout tout couvrir, quoi. La vaisselle, l'aspirateur, la serpillière, la lessive, tout. Il faut même peut-être en faire un sport familial, si vous voulez. Parce qu'en fait, les petites filles modèlent leur maman. Et donc, en fait, il faut que aussi votre conjoint soit investi parce que les petits garçons... modèlent leur papa, en gros, quoi. Ouais. Oui, c'est dur, et oui, effectivement, le job repose encore sur nos épaules, mais moi, le fait qu'il y ait plein de mecs de 30 ans qui n'aient jamais fait une lessive ou qui ne sachent pas ce que c'est le produit pour les plaques, ou que... Enfin, c'est hyper choquant, quoi.
Il faudrait faire passer un test, en fait, au moment des rencarts. Genre,
alors,
as-tu déjà essuyé une vitre ? As-tu déjà étendu tes slips toi-même ? Non ? Au revoir.
Non, mais c'est inacceptable, en fait. Enfin, quand on arrive là, quand tu vois des mecs à cet âge-là qui savent pas faire ça, c'est qu'il y a vraiment eu un problème, quoi. Et troisième point, normaliser le fait que le père s'occupe des enfants. Non, une soirée avec eux à la maison pendant que maman est sortie, c'est pas du babysitting. C'est tes enfants. Donc, en fait...
C'est pas rendre un service, en fait, c'est juste...
t'occuper de tes enfants.
C'est ça, c'est normal.
Alors, on a deux petites références. Un livre, Libéré, de Tissiou Lecoq, aux éditions Fayard, qui en fait explique pourquoi le combat féministe
passe par les tâches ménagères.
Voilà,
aussi,
passe par les tâches ménagères.
Donc, rangez vos chaussettes.
Et un épisode d'un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée.
Sur
Arte Radio. Et l'épisode s'appelle Qui gardera les enfants et parle vraiment de cette problématique-là, de pourquoi les femmes racisées ne doivent pas servir à résoudre l'inégalité de la répartition des tâches ménagères.
Voilà, donc bon courage. Et c'est tout pour cette semaine. À bientôt.
Salut.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quoi de Meuf. abonnez-vous sur quadmeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quadmeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye.
Quad Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.